Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison sur Jet FM. Notre émission Je suis venue vous lire vous donne rendez-vous à nouveau chaque jeudi, mais avec un léger changement d'horaire. Dorénavant, nous prendrons l'antenne de 12h à 13h pour vous offrir le temps d'un repas ou d'une pause, un moment où les mots rejoignent et s'accordent avec la mélodie, un partage de textes et de chansons, de paroles et de musique. Alors pour débuter cette série d'émissions, j'ai choisi de vous lire des récits de femmes, avec des vies au destin incroyable. Vous lire leurs écrits, retracer leur quotidien, ou vous raconter leurs histoires, et peut-être sortir de l'ombre quelques-unes d'entre elles qui, de mon point de vue, méritent d'être connues, voire reconnues. Des femmes déterminées, insatiables, innovantes, visionnaires, elles ont transcendé pour certaines leurs conditions, leur société, leur religion. Alors, voici le temps d'une émission, leur histoire. Que peut bien ressentir une personne qui, à l'approche de ses 30 ans, se retrouve soudainement libre après une vie de servage? Quand je me rendis compte que j'avais passé la frontière, je regardais mes mains pour voir si j'étais toujours la même personne, raconte en 1869 Harriet Tubman à sa biographe Sarah Bradford. Tout autour devint splendeur. Le soleil doré traversa les arbres et se répandit sur les champs. Oh, j'étais comme au paradis. Nous sommes alors en 1849 et l'esclave noir a réussi l'exploit de traverser la frontière entre le Maryland, état esclavagiste, et la Pennsylvanie, où l'esclavage est aboli, comme dans tout le nord des États-Unis. C'est grâce à sa foi et à son audace qu'elle a pris la route seule, au mépris des risques. Bientôt, elle n'a plus qu'une idée en tête, revenir pour récupérer sa fratrie, afin de lui faire goûter son privilège de fuyarde, la liberté. Harriet vient d'une famille nombreuse. Elle a 8 frères et sœurs et les liens qui l'attachent à sa famille sont puissants. De parents esclaves, Harriet et Ben, elle choisit de porter le prénom de sa mère pour lui rendre hommage. Harriet a connu le pire. Nourrice en location dès 6 ans, elle est battue par sa maîtresse lorsqu'elle ne parvient pas à calmer les pleurs du bébé dont elle a la garde. Comme l'immensité des esclaves, Harriet a subi nombre de sévices et d'humiliations et de violences. La seule chose à laquelle elle est échappée, c'est d'être engrossée par un maître. Car, petite, après avoir reçu un poids sur le crâne, lancé par un maître qui voulait viser un autre esclave, elle devient sujette à la narcolepsie pour le restant de sa vie. Alors, une esclave qui s'endort sans prévenir n'est pas une main-d'œuvre très utile. Et Harriet rapporte qu'elle ne vaut même pas 6 pence aux yeux des maîtres blancs. Maltraitée par toutes celles et ceux chez qui elle est placée, elle décide en 1849 de s'enfuir. Harriet parle de son projet de fuite à John Tubman, avec qui elle s'est mariée en 1844. Mais cet homme noir est libre et, n'étant pas esclave, ne voit pas l'intérêt de quitter le Maryland. Elle tente une première évasion avec ses 2 frères, qui rebroussent chemin après plusieurs jours de marche, de peur de se faire coincer par des chasseurs d'esclaves. Elle recommence, seule, en suivant l'étoile polaire, pour s'orienter vers le nord, ainsi que lui a appris son père. Sur sa route, longue de plusieurs milliers de kilomètres, notre courageuse fugitive croise alors des Quakers, membres d'une organisation secrète qui vont lui porter assistance. C'est ainsi qu'Harriet découvre l'existence du chemin de fer clandestin. C'est un réseau composé de Noirs libres et de sympathisants anti-esclavagistes, Quakers en tête, mais aussi Amérindiens. Le chemin de fer clandestin aurait aidé à l'évasion de 50 000 à 100 000 esclaves en 40 ans, jusqu'à la guerre de sécession. Rejoignant le réseau dès sa liberté acquise, débarrassée de ses obligations maritales, puisqu'elle apprend à l'occasion d'un retour dans le Maryland que John s'est remarié sans même avoir demandé le divorce. Harriet se consacre corps et âme aux évasions. En plus de ses proches, elle aurait à elle seule libéré plus de 300 esclaves. Rusée Harriet, elle use de moult déguisements pour passer entre les mailles du filet esclavagiste, alors même que sa tête est mise à prix 40 000 $. La bravoure d'Harriet ne s'arrête pas à ses traversées qui l'amènent jusqu'au Canada, quand la Pennsylvanie n'est plus sûre. Lorsqu'éclate la guerre de sécession en 1861, Harriet rejoint les forces de l'Union pour servir d'abord comme cuisinière et infirmière auprès des troupes, puis espionne, à laquelle on prête une aide décisive dans la prise de Jacksonville en Floride. En guise de remerciement pour ses faits de gloire, l'État américain se montrera particulièrement pingre. Après des années de négociations administratives, Harriet n'obtient qu'une pension de 20 $ en tant que femme et noire. En 1869, commence une nouvelle vie pour l'intrépide Harriet. Elle se remarie avec un homme de 22 ans, son cadet, ce qui est franchement avant-gardiste pour l'époque. Mais surtout, elle se consacre jusqu'à la fin de sa longue vie à de nouveaux combats. Le droit de vote des femmes et la place des Noirs dans la société américaine. Harriet s'éteint en 1913, vers l'âge de 93 ans, dans un hospice pour femmes noires dont elle avait elle-même financé la construction. « Il y avait deux choses auxquelles j'avais droit, expliquait-elle. La liberté ou la mort. Si je ne pouvais pas avoir l'une, je tomberais par l'autre, car aucun homme ne devait me prendre vivante. »
I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I had. I do what I can when I can while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with. I can feel it in my bones. Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving. And I fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling? Calling me to answer, gonna keep on keeping. What's wrong?
Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, do you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, I hear freedom calling, calling me to answer. Gonna keep on keeping on.
I can feel it in my bones. I go to prepare a place for you. I go to prepare a place for you.
Égérie de la Révolution d'octobre 1917, elle a passé une grande partie de sa vie entre l'exil et les travaux forcés en Sibérie. Dotée d'une force de caractère et d'un charisme sans égal, Maria Spiridonova a défendu ses convictions jusqu'à devenir l'ennemi à abattre. Je n'ai jamais rencontré une femme qui soit son égale dans aucun pays, écrivait la journaliste américaine Louise Bryant en 1917, dans son reportage consacré à la révolution bolchévique. Adulée, Maria Spiridonova voguait en effet au sommet de la popularité après 11 ans d'exil forcé en Sibérie. Le motif de cette célébrité ? L'attentat contre un chef de la sécurité qu'elle a commis quelques années plus tôt et qui lui a valu d'être persécutée par la police tsariste, la propulsant du statut de terroriste à celui de sainte dans cette Russie pré-révolutionnaire. Son esprit de révolte, elle se l'est forgé dès le plus jeune âge. Elle est née à Tambov en 1884, à peu près 450 km au sud-est de Moscou, dans une famille de hauts fonctionnaires. La jeune Maria a rapidement montré une capacité à se révolter contre les injustices. En terminale, elle est aux côtés des séminaristes de Tambov qui protestent contre les conditions de vie. À 21 ans, elle est arrêtée dans une manifestation étudiante et envoyée 3 semaines en prison. Le contexte parle pour elle. La Russie du début du XXe siècle connaît une rébellion sans précédent. Début 1905, des soldats ouvrent le feu sur des manifestants à Saint-Pétersbourg. Scandalisée, Maria adhère alors à la section du Parti socialiste révolutionnaire dans sa ville. L'objectif du Parti socialiste révolutionnaire est d'éliminer les détenteurs du pouvoir du régime tsariste. Son adhésion tombe à pic. À la fin de l'année, les paysans russes se soulèvent contre les propriétaires terriens. Dans sa ville, les événements tournent mal et le conseiller du gouverneur Gavril Loujvonovski donne l'ordre de tirer sur les paysans. Le comité du Parti socialiste révolutionnaire, pour lui, c'en est trop. Alors, Maria se voit confier la mission d'assassiner Loujvonovski. 16 janvier 1906, gare de Tambov. Une jeune femme, grands yeux gris et cheveux bruns, remontée en une couronne de tresses, patiente calmement. Le général Loujvonovski arrive, Maria là-bas avec son revolver. Les Cosaques qui accompagnent l'officier arrêtent immédiatement Maria. Elle est rouée de coups puis placée en cellule, complètement nue, avant d'être violemment interrogée pour donner le nom de ses camarades. Maria ne lâche pas un mot. Les officiers la brûlent avec des cigarettes avant de la violer. En prison, la jeune femme de 22 ans écrit une lettre à ses camarades du parti pour raconter son arrestation ultra-violente et les sévices qu'elle a subis. 2 journaux libéraux nationaux la publient. Dans leur colonne, ils prennent sa défense et la décrivent comme une fleur d'une beauté spirituelle que seule la plus haute culture russe pouvait produire. Le mythe prend vie. L'émoi suscité par les lettres est tel que Maria acquiert une renommée nationale devenant le symbole des violences du régime tsariste sur son peuple. cela n'empêche pas le tribunal de la condamner à mort, par pendaison, le 12 mars 1906. Dans sa cellule, elle accepte volontiers son sort, espérant devenir une icône, comme elle l'indique. « Ma mort revêtira une signification révolutionnaire extraordinaire. » Mais grâce à la compassion de ses compatriotes, son état de santé vacillant, elle a contacté la tuberculose. Et la défense de son avocat, sa peine est commuée aux travaux forcés à perpétuité, direction le bagne en Sibérie. 11 ans passent et la révolutionnaire des premiers jours n'oublie rien de ses idéaux dans l'enfer glacé sibérien. Elle met à profit son incarcération pour apprendre le français et l'anglais. « Vous vous souviendrez, dit-elle, qu'avant la Révolution, autant de femmes que d'hommes allaient en Sibérie. Certaines années, il y avait encore plus de femmes. » En février 1917, la Révolution secoue le pays. Avec ses camarades, elle est libérée et part à Pétrograd. Elle est reconnue, célébrée. Le comité de cinéastes Skobelev la filme et la qualifie de martyre de la première Révolution. Là, elle participe aux différents congrès qui rythment la Révolution et devient une oratrice phare du Parti socialiste révolutionnaire. Alors que la Russie devient la première grande puissance à accorder le droit de vote aux femmes, Maria Spiridonova se retrouve une des rares femmes sur les bancs de l'Assemblée. Sans micro, ces dernières sont obligées de crier pour se faire entendre, les hommes en profitant alors pour les traiter de folles. Maria n'échappe pas à ce mépris, malgré son charisme. Les libéraux la vénéraient. Depuis la scission du Parti socialiste révolutionnaire, ils sont les premiers à la traiter d'hystérique. En juin 1918, Maria dénonce ouvertement le gouvernement dans une allocution. Lénine réplique dans un discours pointant 8 fois l'hystérie de Maria. Ses qualités d'oratrice, ses convictions politiques fermes se retournent contre elle. Le 6 février 1919, elle prend la parole dans une usine de Pétrograd et s'insurge contre le gouvernement en qualifiant Lénine Trotsky de « ramassis de personnes louches ». Le 13 février, la femme politique devenue ennemie numéro 1 du régime est arrêtée. Le tribunal révolutionnaire de Moscou la déclare coupable de calomnie et d'agitation irresponsable et criminelle contre le gouvernement soviétique. Malade et hystérique, selon l'instance, elle est condamnée à 1 an d'isolement de la vie politique et sociale et devient la première victime de la répression psychiatrique en Russie. De condamnation en condamnation, exilée un peu partout en Russie et accusée de mener des activités antisoviétiques par la police d'État, Maria reste malgré tout très populaire. À l'étranger, son sort émeut. Un comité de soutien parisien édite des cartes postales avec son portrait pour demander son exil en France. En 1937, la police politique bolchévique arrête à nouveau cette opposante, l'accusant d'avoir constitué un centre contre-révolutionnaire et de vouloir commettre un attentat contre Staline. Sa vie politique est pourtant au point mort, mais elle n'hésite pas à opposer toute sa force de caractère au procureur adjoint qui l'arrête. « Vous pouvez me tuer, lui scande-t-elle, mais je mourrai debout. » Internée à Orel, dans la partie occidentale de la Russie, elle est fusillée comme les 169 co-détenus politiques de la prison sur ordre de Staline, le 11 septembre 1941. Mais debout, assurément. Le dessin des frontières de l'Irak, c'est elle. La stratégie britannique en Mésopotamie, dans les années 1920, c'est elle. Le premier musée de Bagdad, c'est encore elle. Archéologue, espionne, alpiniste, Gertrude Bell a passé sa vie à sonder les déserts du Moyen-Orient. Elle en est devenue la reine sans couronne. Voici son histoire. Gertrude Bell a toujours eu deux caractéristiques principales. Le fait d'être une intellectuelle et celui d'être une tête brûlée. À 20 ans, lors de son grand oral à Oxford, une époque où les étudiantes devaient parfois assister aux cours de dos pour ne pas regarder le professeur en face, elle contredit ouvertement le jury en critiquant le roi Charles Ier. Cela ne l'empêche pas d'être la première femme à sortir majeure de sa promotion de la faculté d'histoire. Gertrude prend seule le métro et s'insurge de ne pas être invitée au garden party de ses camarades masculins. La jeune femme affiche très tôt son désir de bousculer l'ordre établi. La vie de Gertrude Bell débute dans un cadre on ne peut plus paisible. Elle naît le 14 juillet 1868 en Angleterre, dans une famille de riches industriels. Malheureusement, sa mère décède lorsqu'elle a 3 ans. Et elle noue alors un lien profond avec son père qui l'encouragera dans quasi toutes les aventures de sa vie. Alors, en seconde noce, il épouse une femme qui, elle, est un peu plus traditionnelle. Elle tente d'élever Gertrude en lady rangée, mais croyant assagir sa belle-fille en l'envoyant découvrir la haute société chez son frère, ambassadeur britannique à Téhéran, elle attise en réalité ses penchants pour l'aventure. Gertrude a 24 ans, elle est frappée d'un coup de foudre magistral pour l'Orient, un amour qui l'amènera au bout du désert d'Arabie et au sommet de la politique étrangère. Lors de son séjour à Téhéran, elle se plonge dans l'étude du perse et de l'arabe littéraire. Elle raconte son émerveillement dans son premier ouvrage. Puis, elle traduit un recueil de poésie lyrique persane. En parallèle, alors que le sport d'hiver n'est pas du tout développé, son hobby consiste à gravir des sommets alpins, comme la Meije ou le Mont Blanc, ascension qui lui valent l'honneur d'avoir un pic baptisé en son nom dans les Alpes suisses. C'est au travers de l'histoire ancienne que Gertrude revient à l'Orient. À 31 ans, elle part à Jérusalem et visite les ruines de Palmyre, Alep, Petra. Elle en tire des notes précises et quelques 500 photographies considérées comme des documents d'importance internationale, commente aujourd'hui Mark Jackson, responsable des archives de Gertrude Bell. S'en suivent de nombreuses expéditions en Syrie, en Turquie, en Mésopotamie. Au cours de l'une d'elles, Gertrude découvre le palace du Kedir, en Irak, une forteresse datant de 775 après Jésus-Christ. Le chemin de l'exploratrice se corse en 1913, date de son départ pour Haïl, une ville d'Arabie, réputée particulièrement dangereuse. À son arrivée, Gertrude y reste captive des autorités locales pendant 11 jours. Mais l'expérience lui donne l'occasion de rencontrer de nombreuses tribus, de répertorier leurs coutumes, leurs liens, leurs conflits, bref, de les comprendre. Son retour à Constantinople impressionne. 4 mois plus tard, elle est vivante. À tel point que la Royal Geography Society lui décerne son honorifique médaille. Comme la guerre vient d'éclater et que peu de diplomates britanniques connaissent avec minutie les sociétés moyen-orientales, Gertrude devient incontournable pour le gouvernement. À leur demande, elle leur fournit ses notes de voyage. L'armée la recrute comme officier de renseignement au bureau du Caire, chargé de surveiller le Moyen-Orient. C'est là que ses plus importantes missions commencent. Pourtant, en dehors du monde de la diplomatie, on pense toujours impossible qu'une femme soit capable de tels actes. Et lorsqu'est édité The Arab of Mesopotamia, un ouvrage que Gertrude publie anonymement, la critique salue ce texte qu'elle attribue tout naturellement à un groupe d'hommes de terrain anonyme. Gertrude Bell gravit encore les échelons militaires en 1919, quand l'armée britannique envahit Bagdad. Elle y est envoyée en tant que commandante. Commence alors, comme elle le confie dans une lettre, la partie la plus intéressante de sa vie. C'est au cours de cette période qu'elle pose les bases d'un État, l'Irak. Ce qui n'était pas un combat gagné d'avance. À l'époque, Gertrude soutient le mandat britannique. « L'Orient ne peut se stabiliser de lui-même, dit-elle, ce que nous ne pouvons autoriser dans l'intérêt de la paix universelle. » Elle écrit à son père en 1919, ce qui fera bondir les anticolonialistes contemporains. En revanche, elle s'oppose à la manière de faire. Nous leur avons promis un gouvernement arabe avec des conseillers britanniques et nous avons mis en place un gouvernement britannique avec des conseillers arabes, s'insurge-t-elle dans une autre lettre à son père. Les rébellions successives de Bagdad prouvent que la population lui donne raison. Les années suivantes, elle organise un petit lobbying pour pousser en avant les hommes politiques irakiens susceptibles de gouverner. Elle devient une personnalité si connue dans la vie publique que les habitants la surnomment « la mère des croyants », titre qui n'avait jusque-là servi à désigner que les femmes du prophète. En 1919, elle est la seule femme diplomate à participer à la conférence de la paix de Paris pour déterminer le règlement de la Grande Guerre. En 1920, elle est la première femme à publier un rapport stratégique officiel pour le gouvernement. Il porte sur la Mésopotamie. En 1921, elle dessine la frontière sud de l'Irak et supervise l'élection de Faisal comme premier roi du pays. Il l'appelle « ma sœur ». La fin de sa vie sera consacrée à son premier amour, l'archéologie. Le roi Faisal la nomme directrice honoraire des Antiquités, titre au nom duquel elle supervise la création du musée de Bagdad. Sitôt l'inauguration faite, Gertrude se renferme. On l'a dit depuis quelques années, sujette à la dépression. Est-ce la solitude qui pèse ? Son premier fiancé fut refusé par son père. Et son deuxième grand amour, un homme marié avec qui elle entretient une ardente relation épistolaire, mourut au front. Cette aventurière des sables meurt d'une overdose de somnifères en 1926, deux jours avant son 58e anniversaire. Suicide ou maladresse, on ne le saura jamais. Le Bagdad Times dit alors qu'elle était l'amie de centaines d'Irakiens, mais avant tout, elle était une amie et un soutien inconditionnel de l'Irak. Notre monde occidental a pour règle de juger le génie des civilisations à l'ampleur des traces qu'elles laissent derrière elles. Monuments, églises, fortifications militaires, etc. À cette aune-là, la civilisation indienne ne pèse pas bien lourd et sa disparition peut paraître un détail de l'histoire. Pourtant, ces peuples ont parlé avant d'être définitivement vaincus. et nous restons confondus devant ces bribes de voix et ce qu'elles laissent présager de leur spiritualité. Ces hommes, qui ne bâtissaient ni pyramides, ni cathédrales, avaient trouvé leur juste place dans le cosmos, au sein d'une nature qu'ils respectaient et adoraient. Ils ne cherchaient pas à accumuler richesses et bien-être, mais à se forger une âme forte en harmonie avec le monde, savoir s'intégrer respectueusement à l'univers des forêts ou des plaines, savoir reconnaître l'étincelle du sacré dans chaque parcelle de vie. Voilà l'essentiel de leur philosophie. Les vastes plaines ouvertes, les belles collines qui ondulent et les ruisseaux qui serpentent n'étaient pas sauvages à nos yeux. C'est seulement pour l'homme blanc que la nature était sauvage. Seulement pour lui que la terre était infestée d'animaux sauvages et de peuplades barbares. Pour nous, la terre était douce, généreuse, et nous vivions comblés des bienfaits du grand mystère. Ce n'est que lorsque l'homme poilu de l'Est est arrivé, et dans sa folie brutale a accumulé les injustices sur nous et les familles que nous aimions, qu'elle nous est devenue sauvage. Lorsque même les animaux de la forêt commencèrent à fuir à son approche, alors commença pour nous l'Ouest sauvage. Une femme aux longs cheveux noirs de jais, le regard fier, plusieurs colliers de perles ornent sa tunique bordée. Magnifique et singulière, elle porte les habits de son peuple, les Sioux. C'est l'un des portraits les plus connus de Zictalacha, dont le nom signifie « oiseau rouge » en langue Lakota. Femme en quête de liberté et activiste acharnée, Zictalacha est née en 1876 dans la réserve indienne, située au Dakota du Sud. Son père est germano-américain, sa mère est une Sioux. C'est elle qui élève Zictalacha. Elle grandit avec ses deux frères, au rythme des traditions Sioux, près de la rivière du Missouri. Le soir, autour du feu, elle écoute captivée les légendes contées par les anciens, comme celle d'Iktomi, l'esprit farceur araignée. Elle n'a que 8 ans quand elle est obligée d'intégrer une école destinée à civiliser les Indiens. Après les avoir chassés de leurs terres dès 1831 et les avoir parqués dans des réserves, les colons vont aussi les obliger à abandonner leur identité et leur culture. Beaucoup en mourront, victimes de maltraitances physiques et mentales. En établissant ces écoles pour nous éduquer, témoigne Zictalacha, les Blancs se sont vantés de leur charité envers les Indiens d'Amérique du Nord. Mais peu se sont demandé ce qui se cachait derrière cette prétendue civilisation qu'on nous offrait. La vie véritable ou la mort durable? Ces années de déracinement la traumatisent à jamais. Dès le premier jour, on coupe ses cheveux longs. Dans la tradition Sioux, seuls les lâches et les endeuillés sont rasés. Je me souviens alors avoir été traînée à coups de pied et lacérée jusqu'au sang. Ils m'ont portée en bas des escaliers et m'ont rapidement attachée sur une chaise. J'ai crié en secouant la tête sauvagement jusqu'à ce que je sente les lames froides des ciseaux contre mon cou qui coupent mes grosses nattes. C'est alors que je perdis l'esprit. Pour échapper à son destin tout tracé de femme de ménage, Zictalacha, au lieu de se morfondre, décide d'apprendre. Elle veut maîtriser la langue des Blancs et leurs coutumes pour mieux s'en protéger. À 19 ans, elle obtient une bourse pour l'université. Elle commence à recueillir auprès de différentes tribus les légendes racontées par les anciens, afin de transmettre et de préserver les traditions orales pour les jeunes générations. À 21 ans, elle entre au Conservatoire de musique de la Nouvelle-Angleterre à Boston pour étudier le violon, tout à fait exceptionnel pour une Sioux à cette époque. Tout ce qu'apprend Zictalacha, elle le met au service de son peuple. Ainsi, elle enseigne la musique aux enfants autochtones. Elle se fera renvoyer après avoir reproché à son directeur son asservissement à la culture blanche. Ne supportant plus la paupérisation grandissante des Indiens dans les réserves, elle veut agir. La jeune Sioux réussit à faire publier des articles où elle critique le système d'internat des Indiens d'Amérique. Et la même année, en 1902, elle tombe amoureuse du capitaine d'armée Sioux, Raymond Talfas Bonin. Ils travaillent ensemble au Bureau des Affaires indiennes et se marient dans une réserve du Dakota du Sud. Pendant 14 ans, ils vivront et travailleront avec les tribus des Utes et auront un fils. À partir de 1916, elle s'installe avec son mari à Washington et devient une fervente porte-parole des Amérindiens. Elle est rédactrice en chef de l'American Indian Magazine. Son recueil, Histoire amérindienne, qui mêle contes, souvenirs d'enfance et essais critiques, est publié en 1921 et deviendra une référence. Elle rédige aussi un article lapidaire, « Les pauvres riches d'Oklahoma », qui dénonce le vol des terres, riches en pétrole, et les meurtres d'Amérindiens en Oklahoma, fomentés par plusieurs sociétés américaines. Cet article-là fut décisif dans l'adoption en 1934, qui reconnaît enfin aux tribus indiennes le droit à l'autonomie. En 1926, elle crée avec son mari le Conseil national des Indiens d'Amérique, en réaction à un projet de loi qui donnerait le pouvoir au Congrès d'emprisonner tout Indien pendant 6 mois sans procès ni examen judiciaire. L'organisation n'aura de cesse d'unir les tribus à travers le pays afin de défendre leurs droits. Sans relâche, Zintalacha militera pour la reconnaissance de la citoyenneté des Amérindiens. Mais il faudra attendre juin 1924 pour que la loi sur sa citoyenneté indienne soit promulguée. Zintalacha lancera le comité de protection sociale des Indiens, se battra pour l'égalité des femmes et des hommes, égalité qui existe déjà dans la culture indienne. Infatigable, elle demeure présidente du Conseil jusqu'à sa mort, à 61 ans. Toute sa vie, elle fut écartelée entre deux cultures. J'ai perdu mon âme, mais je ne pouvais pas savoir qu'elle ressusciterait un jour, plus forte et plus sage, malgré toutes les blessures qu'elle allait encore subir.
See the woman. She has a young face, an old face. She carries herself well in all ages. She survives all man has done. In some tribes, she is free. In some religions, she is under man. In some societies, she's worth what she consumes. In some nations, she is delicate strength. In some states, she is told she is weak. In some classes, she is property owned. In all instances, she is sister to earth. In all conditions, she is life bringer. In all life, she is our necessity. See the woman eyes, flowers swaying on scattered hills, sun dancing, calling in the bees. See the woman heart, lavender butterflies, fronting blue sky, misty rain falling on soft wild roses. See the woman beauty, lightning streaking dark summer night. Forest of pines mating with new winter snow. See the woman's spirit, daily serving courage with laughter, her breath a dream and a prayer.
Elle est née en Tunisie et a œuvré toute sa vie pour la libéralisation de l'avortement et la criminalisation du viol. Refus de l'oppression, de l'humiliation, de la domination, ainsi que la lutte contre la peine de mort. Alors, comment ne pas évoquer dans cette émission cette femme qui nous a quittés en juillet de cette année? Comment ne pas lui rendre hommage? Vous l'avez sans doute reconnue. Elle s'appelait Gisèle Halimi, une des avocates féministes les plus importantes du XXe siècle. Lutter pour la dignité de la femme ou celle du colonisé était pour elle un seul et même combat. Lors du procès qui s'est tenu à Bobigny en 1972, elle défend Marie-Claire, une jeune femme mineure ayant avorté après un vol. Un procès qui a été une étape essentielle dans la lutte des femmes pour le droit à l'avortement. Lors du procès d'Aix-en-Provence en 1978, elle défend deux jeunes femmes belges, homosexuelles, violées par trois hommes près de Marseille. Ce procès contribuera à faire reconnaître le viol comme un crime. Elle a demandé, lors de ce procès, à ce qu'il n'y ait pas de huis clos, très nouveau pour l'époque. Voici ce qu'elle disait. « Je ne veux pas qu'il y ait de huis clos, parce que je veux que l'opinion sache ce qui s'est passé, qu'on mette des mots sur ce qui s'est passé. Le scandale, c'est de ne pas dire ce qu'est la condition des femmes qui avortent clandestinement, et de ne pas dire ce que c'est qu'une femme ou deux femmes violées par des hommes. Il faut que les hommes répondent ainsi de leur responsabilité devant la société civile. » Sa magistrale plaidoirie, lors de ce procès, restera inscrite dans l'histoire. En voici un extrait. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier, qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. Je ressens donc au premier plan, au plan physique, il faut le dire, une solidarité fondamentale avec ces femmes et avec les autres. Ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est que je m'identifie précisément et totalement avec Madame Chevalier et avec ces autres femmes présentes à l'audience, avec ces femmes qui manifestent dans la rue, avec ces millions de femmes françaises et autres. Elles sont ma famille, elles sont mon combat, elles sont ma pratique quotidienne. Et si je ne parle aujourd'hui, messieurs, que de l'avortement et de la condition faite à la femme pour une loi répressive, une loi d'un autre âge, c'est moins parce que le dossier nous y contraint que parce que cette loi est la pierre de touche de l'oppression qui frappe les femmes. C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans-argent et des sans-relations qui est frappée. Voilà 20 ans que je plaide, messieurs, et je pose chaque fois la question, et j'autorise le tribunal à m'interrompre s'il peut me contredire, je n'ai encore jamais plaidé pour la femme d'un haut commis de l'État, ou pour la femme d'un médecin célèbre, ou d'un grand avocat, ou d'un PDG, ou pour la maîtresse de ces mêmes messieurs. Je pose la question. Cela s'est-il trouvé dans cette enceinte de justice ou ailleurs? Vous condamnez toujours les mêmes, les Madame Chevalier. 343 femmes ont dénoncé le scandale de l'avortement clandestin, le scandale de la répression et le scandale de ce silence que l'on faisait sur cet avortement. Les a-t-on seulement inculpés? Nous a-t-on seulement interrogés? Je pense à Simone de Beauvoir, à Françoise Sagan, à Delphine Séric, que vous avez entendue, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve. D'ailleurs, dans un hebdomadaire à grand tirage, je crois que Catherine Deneuve est représentée avec la légende « la plus jolie maman du cinéma français ». Oui, certes, mais c'est aussi la plus jolie avortée du cinéma français. Retournons aux sources pour que Marie-Claire, qui s'est retrouvée enceinte à 16 ans, puisse être poursuivie pour délit d'avortement. Il lui fallut prouver qu'elle avait tous les moyens de savoir comment ne pas être enceinte et tous les moyens de prévoir. Ici, messieurs, j'aborde le problème de l'éducation sexuelle. Vous avez entendu les réponses des témoins? Je ne crois pas que sur ce point, nous avons appris quelque chose au tribunal. Ce que je voudrais savoir, c'est combien de Marie-Claire en France ont appris qu'elles avaient un corps, comment il était fait, ses limites, ses possibilités, ses pièges, le plaisir qu'elles pouvaient en prendre et donner. Combien? Très peu, j'en ai peur. Alors, messieurs, voulez-vous contraindre les femmes à donner la vie par échec, par erreur, par oubli? Est-ce que le progrès de la science n'est pas précisément de barrer la route à l'échec, de faire échec à l'échec, de réparer l'oubli, de réparer l'erreur? Cela, ça, me semble-t-il, c'est le progrès.
Mais qui a soulagé sa peine? Porter son bois, porte les seaux, à faire une écharpe de laine, le jour de la foire aux chevaux. Mais qui a pris soin de son âme et l'a bercée dans son lit, qui l'a traitée comme une femme, au moins une fois dans sa vie. Le bois que porte Louise, c'est le bon Dieu qui le portait. Le froid dont souffrait Louise,
c'est le bon Dieu qui le souffrait. Ce n'était qu'un homme des équipes du chantier des chemins de fer, à leur laisser aux domestiques, elle leur joignait près des barrières. Me voudras-tu moins qui sait coudre, signer mon nom et puis compter l'homme à sa taille sur la route, passer son bras, la promener. Et l'amour qui tenait Louise, c'est le bon Dieu qui le tenait, le regard bleu sur Louise. C'est le bon Dieu qui l'éclairait. Ils sont partis vaille que vaille, mourir 4 ans dans les tranchées. Lettre qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui les portait, la guerre qui séparait Louise, c'est le bon Dieu qui la voyait. Un soir d'hiver sous la charpente, dans son lit cage, elle a tué l'amour tout au fond de son ventre, par une aiguille à tricoter. Si je vous garde Louise en place, c'est en cuisine, pas devant moi. Ma fille prie très fort pour que s'il fasse ce que le curé m'a appris là. Et la honte que cachait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a caché. Le soldat qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a vu tomber. Il y a 50 ans, c'était en France, dans un village de l'Allier, on n'accordait pas d'importance à une servante sans fiancé. Le deuil qu'a porté Louise, c'est le bon Dieu qui l'a porté. La vie travaillez Louise, c'est le bon Dieu qui l'a aidé.
Pour terminer cette émission, je voulais aussi rendre hommage à une autre femme, avocate turque, ébrutimtique, femme de combat, elle aussi, avocate au barreau du droit du peuple, connue pour défendre les droits humains et les personnes persécutées par le pouvoir comme des dissidents kurdes face au régime autoritaire d'Erdogan. En 2019, Ébrutimtik est condamnée à plus de 13 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste. Un procès factice, un procès politique. Ses engagements dérangent. Emprisonnée dans une prison turque, en février 2020, elle entame une grève de la faim. Elle réclamait un procès équitable. Elle meurt après 238 jours de grève de la faim. Elle avait 42 ans.
İşte bir sabah uyandığımda çal bella, çal bella, çal bella. Çal, çal, çal elleri bağlanmış bulduğum yurdumu, her yanı
Avant de nous quitter, je laisse le micro à Michel pour son coup de cœur.
Bonjour. Aujourd'hui, mon coup de cœur va à Bird and Wire. Alors, Bird and Wire, c'est deux voix. C'est Rosemary Stanley, du groupe Moriarty, et Don Lamena, violoncelliste brésilienne qui a joué avec Jem Berkin et Étienne Daho. Bird and Wire revisite un répertoire éclectique allant de Monteverdi à Dylan, en passant par Férouz, Leonard Cohen ou Jacques Brel. Je propose à vos oreilles averties une reprise d'une des premières chansons de Jacques Brel, « Sur la place ».
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi c'est un jour pareil, une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le diable la beauté. Sur la place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient, ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains, pour se donner la cadence. Ainsi c'est son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. Mais sur la ville, il fait trop chaud pour ne point entendre son chant. Des hommes ferment leurs carreaux comme une porte entre mort et vivant. Ainsi certains jours paraît une flamme en nos cœurs, mais nous ne comme le chien hurlant à la mort, pleurent les hommes et leur destinée.
Je suis venue vous lire reviendra dans 15 jours. dorénavant à 12h, n'oubliez pas. À la technique et à la programmation musicale, Michel Yordanov. À la lecture et à la réalisation, Corinne Tardieu. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast au www.jette.asso.fr ou sur notre page Facebook à Je suis venu vous lire. Bonne écoute sur Jette FM.